Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
Chers amis, bonjour et bienvenue à notre table ronde d'aujourd'hui. Elle s'intitule « Dieu en nous » et je me réjouis d'avance de partager avec vous les expériences faites par nos invités sur le sujet. Avec nous dans le studio aujourd'hui, Estefania, José, Barbara et Sébastien. Merci de participer à cette émission. On peut parler d'une table ronde internationale puisque Estefania et José, vous vivez aujourd'hui en Allemagne, mais vous venez tous les deux d'Espagne. Barbara, toi, tu viens d'Italie et toi, Sébastien, tu es allemand. Donc, différentes mentalités qui vont s'exprimer sur le thème « Dieu en nous ». Je suis impatient d'entendre ce que vous allez nous dire à ce sujet. Peut-être une information pour nos auditeurs et téléspectateurs avant de vous passer la parole. Vous êtes tous les quatre chrétiens des origines. Vous avez quitté les rangs des églises institutionnelles parce que pour vous, l'enseignement qui est donné n'a rien à voir avec ce que Jésus de Nazareth a enseigné à l'origine. Autrement dit, ce sont des questions de foi qui ont motivé votre décision et votre but est de réhabiliter l'enseignement de Jésus de Nazareth. Ce sera le thème central de notre échange. Une première question pour commencer. Avez-vous souvenir d'un moment dans votre vie où vous vous êtes mis, pour ainsi dire, à la recherche de Dieu?
Je ne peux pas dire ça comme ça, parce que quelque part, j'ai toujours cru en Dieu. Ça n'a jamais été une question pour moi. Ce que je cherchais plus directement, c'était le sens de la vie. On dit que Dieu a créé le ciel et les anges, puis la terre et les hommes, que les anges sont au paradis et ont le droit d'être auprès de Dieu. Et moi, je suis là, sur terre, un être humain. Pourquoi? Simplement la malchance ou quoi? Je ne comprenais pas. Et puis un jour, au fil de ma recherche, je suis tombée sur cette phrase. Nous sommes sur terre pour redevenir divins. C'était la réponse à ma question. Il y a tant de choses dans cette phrase, surtout le mot « redevenir ». « Redevenir divin » signifie que nous l'avons été, que je l'ai été. Autrement dit, je n'ai pas toujours été un être humain, j'ai été autre chose avant, et un jour je suis devenu un être humain. Alors, la vie sur Terre est devenue pour moi comme une école où je peux apprendre. À travers les problèmes, les différentes situations que je rencontre, je peux mûrir, faire mes propres expériences et me développer pour redevenir ce que j'étais, un enfant de Dieu.
Tu veux dire, on développe, on libère ce qu'on a un jour enveloppé. Un point de vue intéressant. Barbara, et pour toi?
Pour moi non plus, je ne peux pas dire que je cherchais Dieu, parce que l'image que j'avais de Dieu était celle que nous présentent les églises. Donc celle d'un Dieu vengeur qui punit. Et je ne voulais rien avoir à faire avec ce Dieu-là. Et pourtant, bien que j'avais tout pour être heureuse, une famille où je me sentais bien, des amis, un bon job, je me sentais malgré tout insatisfaite, comme si j'étais vide quelque part, parce que je ne trouvais pas vraiment de réponse sur le sens de la vie.
Donc tu as plutôt cherché le sens de la vie.
Oui.
Et la recherche de Dieu, elle est venue un peu plus tard.
Oui, par la suite.
Ok. Et pour toi, Estefania?
En fait, je me dis souvent que c'est plutôt Dieu qui m'a trouvée, parce qu'étant jeune, j'ai choisi consciemment d'être athée. Moi non plus, je ne voulais rien avoir à faire avec le Dieu des églises. Un jour, quelqu'un m'a donné une phrase clé qui disait « Dieu est énergie ». À partir de là, j'ai pu me faire une image, car l'énergie est partout. Je savais que je peux trouver l'énergie dans la nature, que l'énergie est la force vitale, dans les plantes, dans les animaux, dans les êtres humains, dans le soleil. Et cette image me parlait. À cette époque, le côté scientifique m'intéressait. Comme j'aimais aussi beaucoup être dans la nature et que je suis d'un tempérament curieux, je voulais en apprendre plus. Et je dois dire que c'est la nature qui m'a permis de trouver Dieu, de faire l'expérience de Dieu.
Okay, tu te sentais plus proche de la nature que des cérémonies, c'est ça? Tu viens d'Espagne, un pays très marqué par l'Église.
Oui, mais j'ai eu la chance de ne pas devoir aller à l'Église. Je préférais chercher le calme de la nature. Là, je pouvais beaucoup mieux ressentir ce qui est en moi en rapport avec Dieu plutôt que dans un édifice où l'on pratique des rites.
Ce qui est intéressant, c'est que tous les trois, jusqu'à présent, vous n'avez pas recherché consciemment Dieu, alors qu'il joue aujourd'hui un rôle important dans votre vie. Sébastien, ça a été la même chose pour toi ?
Oui, pour moi, en fait, c'est un peu la même chose. Comme les trois autres viennent de le dire, étant jeune, je n'avais aucun intérêt pour Dieu, donc je ne me suis pas mis à le chercher. J'avais de toutes autres préoccupations. Je faisais beaucoup de sport et investissais beaucoup de temps dans mes loisirs. Et cela me suffisait totalement pour être heureux. À un moment pourtant, il y a eu un tournant décisif dans ma vie, un coup du sort pour ainsi dire, qui m'a obligé à réfléchir et à changer quelque chose. C'est à ce moment que, comme les autres l'ont déjà décrit, je me suis mis à chercher. Mais plutôt à chercher le sens de la vie. Et c'est dans cette recherche du sens de la vie que j'en suis venu peu à peu à chercher Dieu. Et maintenant, avec du recul, je peux dire que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver, même si ça a été une phase plutôt difficile de ma vie. J'étais encore très jeune à l'époque et cela m'a complètement déstabilisé. J'ai été, pour ainsi dire, catapulté hors de mes vieilles habitudes. Mais c'est grâce à cela que j'ai pu m'engager dans un chemin de vie totalement différent. Je me suis parfois demandé où j'en serais aujourd'hui et qui je serais devenu si les choses ne s'étaient pas passées ainsi. En fait, je suis très reconnaissant du tournant qu'a pris ma vie.
Donc, tu es d'avis que la maladie ou les problèmes peuvent être une aide, pour autant que...
Oui, tout à fait. Sur le moment, quand on est soi-même touché, on ne le voit pas comme ça. Mais lorsqu'on arrive à prendre un peu de recul, on se rend compte que ça peut être une aide énorme, car on est obligé de changer des habitudes et des modes de comportement dans lesquels on s'était installé et qui nous limitaient. Des perspectives tout à fait nouvelles s'ouvrent alors à nous, qui nous permettent peut-être aussi de trouver Dieu.
Ok.
En tout cas, on remarque que chacun d'entre vous avait une position de départ différente, si on peut dire. Nous avons tous eu en commun une recherche du sens de la vie qui vous a conduit à trouver Dieu. La question serait maintenant de savoir quel rôle joue la foi pour vous, la foi en Dieu.
Ce mot « foi » est un mot qui est en fait rabâché à toutes les sauces. Quand je l'entends, cela évoque pour moi quelque chose de passif. Pourquoi ? Une question qu'on me pose souvent, est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu es croyant ? Bien sûr, je crois. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Et quelles conséquences concrètes cela a-t-il avec notre vie ? Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, la foi est une foi de jours fériés, entre guillemets. Ils y pensent à Pâques et à Noël et prennent alors la résolution de se comporter correctement. Mais le reste de l'année, cela n'a que peu d'impact sur leur vie. En ce qui me concerne, ma foi est en relation étroite avec ce que je fais et comment je me comporte chaque jour. C'est-à-dire que j'observe mon comportement envers les personnes que je rencontre, envers les animaux, les plantes et tout mon entourage, et que je me remets alors en question. Il s'agit d'une foi active. C'est quelque chose de tout à fait pratique, de concret. Il ne faut pas avoir étudié, il ne s'agit pas d'une théorie, mais tout simplement de la vivre au quotidien. Ça commence le matin, dès le réveil. Et quand on s'y exerce, ça devient progressivement une foi vivante.
Oui, je trouve que cet aspect de la foi active est important. Au cours de ma vie, j'ai été en contact avec de nombreuses personnes de différentes confessions, ce qui m'a permis de connaître ces dernières un peu mieux. La foi, c'est bien sûr le premier pas, et c'est bien de croire en quelque chose. Mais si on en reste à la foi, rien ne se passe, rien ne change. Ce qui est important, c'est d'en faire quelque chose, qu'elle conduise à agir.
Et que cela apporte quelque chose de positif à d'autres.
Oui, tout à fait, et à ton environnement. C'est quelque chose d'actif. Dans ta vie, tu décides de faire quelque chose de cette foi. Sinon, elle reste morte, vide.
Ce que tu dis, José, recoupe en fait ce que disait Sébastien tout à l'heure. Pour vous, ce qui est important, c'est de vivre sa foi. Parce que si elle n'est pas vécue, la foi reste une confession, une enveloppe vide, qui ne porte pas de fruits. Qu'en pensent les dames de notre ronde ?
Eh bien, pour moi, la foi ne jouait aucun rôle jusqu'à ce que j'entende Gabriel parler de la foi active. Le sens de ses paroles est qu'il ne suffit pas de croire, mais que nous devrions faire de notre foi une foi active, en mettant en pratique, dans notre vie quotidienne, les 10 commandements de Dieu et les enseignements donnés dans le Sermon sur la montagne. Ça, c'est quelque chose de pratique, quelque chose qui me parlait et sur lequel je pouvais m'orienter. À la fin de son sermon sur la montagne, Jésus dit aussi, à peu près en ces termes, « Celui qui entend mon enseignement et le met en pratique est un homme sensé. » Il nous appelle donc à faire ce qu'il nous enseigne. Et chacun peut en faire l'expérience pour lui-même. En tout cas, à chaque fois que j'applique un de ces enseignements dans ma vie, ma relation avec mon prochain s'améliore et je me sens plus satisfaite, plus heureuse, tout simplement.
Cela t'a donc apporté très concrètement quelque chose?
Absolument.
Et toi, Estefania?
Eh bien, malgré ce que vous venez de dire, je trouve que croire en Dieu, c'est important. En tout cas, ça l'a été et ça l'est pour moi, parce que ça m'a donné une base sur laquelle on peut grandir une vision et une perspective pour ma vie. À partir de là, j'ai eu une nouvelle motivation et une conception positive de la vie. Cette foi me donne aussi des critères éthiques sur lesquels je peux orienter ma vie quotidienne. Bien sûr, cette conviction intérieure, cette foi ne me servirait à rien si elle ne portait pas ses fruits dans ma vie de tous les jours. Je trouve qu'au départ, il est très important, surtout à notre époque, d'avoir au moins une vision et une perspective pour sa vie. Parce que lorsqu'on voit à quoi ressemble le monde, partout la guerre et la violence, la terre-mère est à l'agonie, je crois que beaucoup, beaucoup de gens, et surtout de jeunes, ne voient pas d'avenir, n'ont pas de perspective. C'est pourquoi je trouve très important de pouvoir avoir la foi en Dieu.
Oui, je comprends bien ce que tu veux dire. Il y a aussi cette phrase bien connue de Jésus de Nazareth. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est aussi ce à quoi tu fais allusion. Puisque nous parlons de Jésus de Nazareth, j'aimerais vous demander ce qui vous fascine en lui et pourquoi vous êtes chrétien des origines.
Je trouve que Jésus de Nazareth est un vrai exemple pour moi, pour ma vie. Il était quelqu'un de simple, comme toi, comme moi. Il a appris une profession, il l'a exercée, il gagnait sa vie comme charpentier. Mais en plus, il a enseigné, il a montré et vécu en exemple comment on peut vivre selon des valeurs éthiques élevées. C'est une aide pour chaque être humain. Tous ceux qui le veulent peuvent appliquer son enseignement dans leur vie. Et pour moi, cet enseignement est au-dessus de toute religion extérieure, parce qu'il est libre, accessible à tous et qu'il conduit à des valeurs universelles.
En résumé, ce qui est important pour toi n'est pas de se reconnaître d'une confession, mais la manière dont on vit. C'est bien ça?
Exactement. Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner, il a vécu en exemple ce qu'il a enseigné.
Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que son enseignement contient des valeurs universelles qui, de ce fait, sont au-dessus de toute religion, confession ou idéologie. Et pour moi, Jésus représente beaucoup plus encore. Il a incarné et enseigné l'esprit libre, dynamique, plein de force. Il a vécu parmi les hommes et ne s'est pas contenté de faire de belles paroles. Il a prouvé que cet enseignement peut être vécu, qu'il n'est pas une utopie, loin de toute réalité, comme on peut l'entendre ici ou là.
En tout cas, visiblement, la vie de Jésus de Nazareth vous inspire et vous interpelle, c'est juste?
Oui, tout à fait. Quand j'étais petite déjà, la vie de Jésus me fascinait. À mes yeux, il est authentique et son enseignement est très proche de la vie. Il dit par exemple, « Regarde tout d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de vouloir enlever la paille de l'œil de ton prochain. » Ou bien, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le tout d'abord pour eux. Il nous a donné toutes ces aides très concrètes pour que nous les mettions en pratique dans notre vie quotidienne. Et puis, Jésus n'a pas fait de différence entre les hommes. Il est allé vers les pécheurs et aussi vers ceux qui étaient en marge de la société. Il était un homme du peuple, à l'opposé des prêtres de l'époque et des hiérarchies des institutions actuelles avec leurs évêques, leurs cardinaux et autres, qui se donnent du éminence et du excellence. Jésus n'a jamais voulu cela.
Oui,
en ce qui me concerne, ça a été assez différent que pour Barbara. Jésus, Dieu, ça ne m'intéressait pas trop quand j'étais plus jeune. Tout cela avait un arrière-goût poussiéreux qui ne me plaisait pas. Mais je dois dire avec un peu de recul que cela est surtout en rapport avec l'image qui m'a été transmise dans les cours de religion. Jésus était présenté soit comme un homme qui marchait pieds nus et qui souriait aimablement, soit comme petit enfant couché dans la crèche de Noël, soit encore comme moribond accroché à la croix. Franchement, pour les jeunes, c'est un peu repoussant, non? Il était bien question des 10 commandements de Dieu ou des béatitudes, du sermon sur la montagne donné par Jésus, qui sont importants et qu'on devrait s'efforcer de mettre en pratique pour devenir quelqu'un de meilleur. Mais en même temps, on nous disait que Jésus nous avait pris tous nos péchés. Donc en fait, il n'était pas nécessaire de trop faire d'efforts non plus. Tout cela ne m'intéressait absolument pas. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à construire peu à peu une relation intérieure avec le Christ que tout cela s'est mis à vivre en moi. J'ai commencé alors à faire l'expérience du Christ dans mon cœur. Et c'est de cette manière que la vie de Jésus a pris un sens à mes yeux. Je crois qu'elle est aussi un message pour tous les hommes. Il nous a apporté son enseignement, elle a aussi mis en pratique. Pour moi, le premier pas a donc plutôt été la découverte du Christ en moi, ce qui m'a permis ensuite de m'intéresser à l'enseignement qu'il avait apporté en Jésus de Nazareth.
Nous sommes maintenant au plein cœur de notre thème qui s'intitule, je le rappelle, « Dieu en nous » et « Avons-nous besoin d'Église ?» J'aimerais donc que nous revenions sur ce point central. Une première question, Sébastien, où peut-on trouver Dieu ? Qu'est-ce que signifie « Dieu en nous » ?
Bien, pour être sincère, c'est grâce à Gabriel que j'ai appris que Dieu est en nous. Si ça ne sort pas du cadre de cette émission, on pourrait dire quelques mots au sujet de Gabriel.
Volontiers.
Ok. Gabriel est une grande prophétesse. Elle est la prophétesse de Dieu à notre époque. À travers elle, le Christ et Dieu, notre Père, s'adressent directement aux hommes d'aujourd'hui. C'est peut-être un peu difficile à s'imaginer, mais en fait, c'est un peu comme au temps où Jésus de Nazareth était sur terre. Gabriel a écrit un très grand nombre de livres, de même que des émissions. Elle a donné d'innombrables séminaires et enseignements sur tous les domaines de la vie, entre autres justement sur le thème « Comment puis-je trouver Dieu en moi ?» où elle explique que Dieu habite en nous. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent n'ont pas encore entendu parler de Gabriel et qu'ils n'ont pas lu ses livres. Mais il y a déjà dans la Bible de nombreux passages dans lesquels il est dit que Dieu habite en nous. Par exemple, lorsque Jésus dit « Le royaume des cieux est en vous ». En fait, Jésus a toujours parlé de manière relativement simple et claire. C'est pourquoi je me demande à quoi servent les églises. Ai-je vraiment besoin d'un prêtre qui intercède en ma faveur auprès de Dieu? À mes yeux, tout cela n'a pas de sens. Ce qui importe vraiment, c'est de trouver Dieu en soi-même, de pouvoir communiquer avec lui à chaque instant de la prière. Pour moi, c'est comme un petit trésor que je porte en moi. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut développer et à quoi on peut s'exercer progressivement. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'est d'aller dans la nature, car je suis quelqu'un qui aime la nature. Lorsqu'on trouve un endroit vraiment tranquille, qu'on respire peut-être quelquefois profondément, pour laisser derrière soi la journée. On a alors envie de faire le calme en soi. On se promène dans la forêt ou dans les prairies très calmement. Et je crois qu'à cet instant, chacun peut ressentir qu'un esprit puissant agit dans la nature. Et nous, les êtres humains, nous pouvons aussi, en prière, nous tourner vers cet esprit avec tout ce qui nous préoccupe. C'est comme un très bon ami à qui je téléphone, avec qui je peux parler de tout et qui m'aide à avancer dans la vie. Tout ce qui m'arrive ne me plaît pas forcément. Alors pourquoi est-ce que je dois traverser cette situation maintenant? Mais si je me tourne vers Dieu dans la prière pour comprendre, après coup, je me rends compte que cette situation contenait une aide pour moi.
Oui, merci pour tes explications qui m'amènent à vous poser cette question. Pourquoi n'a-t-on pas besoin de temple, d'église pour prier?
Parce que, comme le disait Sébastien tout à l'heure, chacun de nous est le temple de Dieu. C'est également le sens des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Le royaume des cieux est en vous ». Nous n'avons en fait pas besoin de chercher à l'extérieur. Il suffit de nous tourner vers l'intérieur de nous-mêmes. Et chacun peut se tourner vers le Christ, vers Dieu, en lui-même. C'est ce que j'ai fait, moi aussi, et j'ai rapidement remarqué qu'une relation grandissait peu à peu. Mais Dieu nous parle aussi à travers les situations de la journée. Gabriel nous a appris, par exemple, que tout ce qui vient vers nous n'est pas un hasard. À travers chaque situation de la journée, Dieu, notre Père, s'adresse à nous et souhaite nous montrer quelque chose, par exemple une attitude négative ou bien des pensées qui sont tournées contre notre prochain. Il le fait afin que nous les reconnaissions, les mettions en ordre et que nous puissions ainsi nous en libérer. Chaque jour a donc un message pour nous. Tout dépend de si nous sommes ouverts pour le recevoir et de ce que nous en faisons.
Puisque nous parlons de nous tourner vers l'intérieur de nous-mêmes pour prier Dieu, je me rappelle de ce passage de l'évangile de Matthieu dans lequel Jésus dit, je peux vous le lire? Jésus explique à ses disciples, je cite, « Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Fin de citation. Il s'agit donc ici de la relation très proche, très intime avec Dieu que chacun peut développer et qui n'a pas besoin de belles paroles, de longues phrases creuses ou de cérémonies. Je crois que la seule chose qui compte dans la prière, c'est les sentiments que j'y dépose.
Ce que tu sèmes, tu le récolteras, non? Vous avez tous décrit que c'est en vous tournant régulièrement vers le Christ dans la prière que votre relation à lui a grandi. Et tu dis également que tu reçois en fonction de ce que tu déposes véritablement dans ta prière. Si je comprends bien, une relation se crée et grandit, mais elle demande bien sûr un certain investissement.
Oui, en fait, c'est comme dans une vraie bonne amitié. Elle ne peut pas grandir si tu ne vois jamais tes amis, tu ne leur téléphones jamais pour leur parler.
Ou si tu le fais seulement quand tu as besoin d'eux.
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui doit se développer au cours du temps. Au début, on se tourne surtout vers Dieu quand rien ne va plus, pour lui dire « S'il te plaît, aide-moi, je ne sais plus quoi faire ». Dans un deuxième temps, je pense que vous en avez aussi fait l'expérience, on se met simplement à le remercier pour toutes les situations qui se sont bien passées. Alors on dit dans son cœur, et merci que tout se soit bien déroulé.
On vit donc plus consciemment. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de hasard et qu'avoir cela en conscience permet de mieux comprendre le langage de la journée. C'est un point de vue très intéressant. Et ce qui revient très souvent dans ce que vous dites, c'est le mot « liberté » ainsi que « l'esprit libre ». Vous pourriez expliquer en quelques mots ce que vous comprenez par « esprit libre » ?
Esprit libre signifie, entre autres, qu'il laisse ses enfants libres de l'accepter, de faire l'expérience de sa présence ou non, Il est aussi libre dans le sens où il ne se laisse pas enfermer dans des églises faites de main d'homme. Comme le disait Sébastien tout à l'heure, celui qui va dans la nature d'un cœur ouvert ressent qu'une force puissante agit en elle. Pour moi, c'est sa force, la force de Dieu, qui est libre et que personne ne peut s'empêcher de s'exprimer. De tout temps, il a aussi envoyé ses messagers, ses prophètes, pour pouvoir parler directement à tous ses enfants et pour les aider, pour nous aider tous.
Lorsque j'ai entendu ces mots, l'esprit libre, j'étais content de pouvoir enfin mettre un nom sur ce que j'avais toujours ressenti quelque part et qui correspondait à ce que je pensais. J'ai dit tout à l'heure qu'au cours de ma vie, j'ai rencontré des personnes de différents courants religieux. Et ce que j'ai pu observer, c'est que tous, quelle que soit la culture à laquelle ils appartiennent, quelle que soit leur foi ou leur pays d'origine, tous recherchent la même chose, tous les êtres humains. Nous recherchons tous le bonheur et cette liberté dont nous parlons. Pour moi, c'est cela l'esprit libre, quelque chose qui est au-dessus de tout, qui n'est pas lié à une religion particulière, mais c'est l'aspiration profonde que chacun ressent en lui, si on peut le dire comme ça.
Ok, José, autrement dit, pour toi, Dieu n'est absolument pas lié à une religion, je veux dire une religion extérieure ou à une foi particulière, mais est au-dessus de tout cela. Et pour toi, Sébastien, que signifie l'esprit libre ?
L'esprit libre, c'est pour moi la force qui est en chacun de nous, que chacun porte au fond de son cœur, et qui aide véritablement à avancer dans la vie, qui nous aide aussi dans les rencontres que nous avons avec nos prochains, à comprendre ce qui ne va pas dans notre comportement, et nous donne la force de le mettre en ordre, de le régler. Lorsque je suis dans la nature, je le ressens tout particulièrement, et cela m'aide beaucoup. Justement, ce n'est pas seulement l'esprit en nous, mais également tout autour de nous, dans tout ce qui nous entoure. Ces mots « esprit libre » m'ont beaucoup aidé, et je peux m'imaginer que beaucoup de jeunes ont eux aussi un peu de peine lorsqu'ils entendent parler de Dieu ou de Jésus. Ces mots évoquent quelque chose de lourd et d'indigeste. L'esprit libre contient bien sûr la même réalité, mais pour moi c'est autre chose. Ça décrit beaucoup mieux la force et le dynamisme, ce qui est vivant, la vie.
En résumé, chacun peut trouver Dieu en lui-même, mais aussi partout où il y a la vie. Et la vie se trouve en chaque atome. Autrement dit, on peut trouver Dieu partout, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et lorsque j'ai pris connaissance de cela, je me suis demandé pourquoi je n'en avais jamais entendu parler dans les cours de religion, où on nous explique plus ou moins que Dieu s'occupe avant tout des hommes et que tout le reste n'a pas vraiment d'importance. Alors je me suis mis à réfléchir et à me dire, mais oui, puisqu'il est le Créateur, c'est logique qu'il soit dans toute sa création. Pour moi, c'est devenu une évidence, tout comme le fait que Dieu existe. Car sans lui, nous ne pourrions même pas respirer.
C'est aussi ce que je pense. Si nous partons du fait que Dieu est énergie et que tout est énergie, et qu'est-ce que l'énergie ? C'est la force vitale. Nous pouvons dire que Dieu est en chaque plante, en chaque arbre, en chaque animal, dans le plus petit comme dans le plus grand des animaux, mais également en chaque être humain. Gabriel le décrit de très belle façon. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, lire un passage de Dieu en nous.
Donc ce livre est intitulé « Dieu en nous ».
Oui, Gabriel écrit ce qui suit, je cite, « Nous devrions prendre conscience et nous efforcer de saisir du fond du cœur ce que signifie Dieu en nous, Dieu en vous, Dieu le Tout-Puissant est omniprésent en chacun de nous. Dieu est omniprésent en chaque animal, dans le brin d'herbe, la fleur, l'arbre puissant et dans chaque pierre. La force de la vie, la force de la terre, tout en tout est la vie omniprésente. Dieu en nous, Dieu en tout.
Merci beaucoup d'avoir lu ces paroles, ce texte de Gabriel. Jusqu'à présent, vous avez décrit clairement ce qu'est la foi pour vous et ce que signifie Dieu en nous. En quoi, dans ce que vous avez décrit, voyez-vous une contradiction avec les enseignements ecclésiastiques qui, ici en Occident, sont représentés principalement par deux grandes églises institutionnelles? Un jour, vous avez décidé de quitter les rangs de ces institutions. Vous pouvez nous dire pourquoi? José, tu as grandi en Espagne, un pays très ancré dans le catholicisme.
Oui, effectivement, je viens d'Espagne et ce pays est très marqué par l'Église catholique, c'est-à-dire que son peuple est très marqué par les conceptions de Dieu véhiculées par l'Église catholique. Un Dieu vengeur qui punit les hommes en envoyant sur eux des fléaux et peut même décimer l'humanité par un déluge. Une image d'horreur pour moi. Et lorsque j'étais enfant, ce Dieu me faisait terriblement peur. J'avais donc beaucoup de mal à faire cohabiter en moi ces deux images de Dieu. D'un côté, le Dieu vengeur de l'Église, et de l'autre, le Père aimant, dont parlait toujours Jésus de Nazareth. Dans les Écritures, il y a de nombreux passages dans lesquels Jésus parle du Père, comme par exemple, « Qui de vous donnerait une pierre à son enfant qui lui demande du pain ?» Pour moi, c'est cela un Père aimant. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est une visite que j'ai faite au Vatican. Imaginez cette multitude d'édifices qui regorgent d'objets et de matériaux luxueux, toutes ces peintures, ces statues de marbre, tout cet or. La vue de cette indescriptible richesse qui déborde de partout n'a suscité en moi qu'une seule question. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec Jésus de Nazareth? Lui qui a donné jusqu'à sa dernière chemise à ses frères et sœurs, lui qui, comme le disait Barbara tout à l'heure, allait vers les pécheurs, vers les pauvres et les malades. Il a incarné exactement le contraire de ce que représente l'Église à mes yeux. Et là, ma décision a été claire. Lorsque j'entends l'Église faire des sermons sur l'amour du prochain et appeler ses fidèles à faire preuve de charité envers les nécessiteux, je me demande pourquoi elle ne commence pas elle-même en partageant ses incommensurables richesses. Elle n'aurait même pas besoin de tout donner. Une partie suffirait déjà à sauver ou à améliorer la vie de tant de personnes dans ce monde. Il lui en resterait toujours assez si elle croit devoir garder quelque chose pour elle-même.
Eh bien, tu as été très clair. D'autres raisons qui vous ont motivé à quitter l'Église, Barbara?
Je n'ai jamais pu supporter la pression que l'Église fait sur ses fidèles. Elle t'oblige à croire ceci ou cela, à être une pieuse catholique, etc. Jésus, lui, a laissé à chacun le libre arbitre. Jamais il n'a contraint qui que ce soit à le suivre ou à le croire. Je dois dire que la liberté est un aspect très important pour moi. Je me rappelle aussi d'une situation lorsque j'étais plus jeune. C'était en l'an 2000, pendant l'année sainte, le jubilé.
Le jubilé?
Oui, le jubilé. C'est une coutume catholique. À cette époque, je vivais à Rome et je n'oublierai jamais que mon chef a dit un jour « Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour passer le portail des indulgences. »
Le portail des indulgences, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est un immense portail paré d'un tas de dorures.
Et qui se trouve où?
Au Vatican, mais également dans d'autres églises de Rome.
L'un des portails de la basilique Saint-Pierre, c'est ça?
Oui, exactement. Et l'Église catholique dit que si tu passes ce portail, moyennant paiement, bien sûr, eh bien, tous tes péchés sont pardonnés. Tu es sauvé, pour ainsi dire. Enfin, selon l'Église. J'étais sous le choc, car mon chef n'était même pas croyant.
Il était athée?
Oui.
Et il est quand même passé sous le portail?
Oui, parce qu'il disait, « Eh bien, au cas où je me trompe, je serai quand même sauvé. » Je dois dire que ça m'a donné à réfléchir. Et j'ai compris que l'Église utilise vraiment tous les moyens pour lier les gens et les amener à faire ce qu'elle veut. Et la peur en est un. Je pense aussi automatiquement à tous les rites et les cérémonies qu'elle pratique. Tout cela est dépourvu de tout bon sens à mes yeux. Et je me dis que si elle n'utilisait pas tous ses moyens, les églises seraient peut-être vides depuis longtemps.
Oui, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça montre que l'Église, en utilisant la peur, arrive même à influencer des personnes athées, donc qui n'en font pas partie. On le voit, l'Occident, d'une manière générale, est très marqué par les églises institutionnelles. C'est très intéressant. Et pour toi, Estefania ?
Pour moi, Dieu est exactement le contraire de ce qu'incarnent les institutions ecclésiastiques. Pas seulement concernant les aspects qui ont été expliqués à l'instant. Regardons comment fonctionnent les églises. Leur structure extrêmement hiérarchisée, en fait une hiérarchie où les hommes règnent en maître. Pourtant, Dieu est l'égalité et il ne peut pas en être autrement. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'en tant que femme, je compterais moins qu'un homme? Et pourquoi est-ce que je devrais laisser un homme en soutane me dire ce que je dois faire et ne pas faire? Je ne comprends d'ailleurs toujours pas comment, en tant que femme, on peut vouloir rester dans une telle institution. Un autre point parmi tant d'autres, si je fais quelque chose de mal, je devrais aller voir je ne sais quel prêtre pour qu'il me pardonne. Ça n'a aucun sens. Si j'ai mal agi envers quelqu'un, c'est vers cette personne que je devrais aller pour mettre en ordre ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, afin que cette personne puisse me pardonner. À quoi me sert de réciter 50 Ave Maria ou je ne sais quelle autre prière apprise par cœur? Ce n'est pas ça qui va me rapprocher de Dieu et qui va mettre les choses en ordre. D'ailleurs, pour autant que je le sache, Jésus de Nazareth n'a jamais enseigné ça, pas plus qu'il n'a parlé d'Ave Maria.
À ma connaissance non plus. Ce que tu dis est intéressant parce que la confession des péchés est un devoir important dans l'Église. On doit passer par le prêtre qui, au nom de Dieu, est censé nous pardonner nos péchés. J'aimerais revenir maintenant à notre thème central, Dieu en nous, en vous posant une autre question. Cette attitude, cette conviction que Dieu est en nous, est-ce qu'elle a des répercussions dans votre vie quotidienne? Et si oui, lesquelles? Est-ce que cela vous aide à régler certains problèmes, par exemple?
Bien sûr, je ne peux pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne, c'est devenu quelque chose qui fait totalement partie de ma vie. Et je ne peux plus du tout imaginer vivre sans Dieu, sans la certitude que Dieu est en moi. Cette conscience m'accompagne au cours de ma journée et dans toutes mes activités. J'en ai déjà parlé avant. Quand je suis avec des personnes, quand je suis au travail, lorsqu'il y a des difficultés à surmonter, quelle que soit la situation, j'ai toujours la possibilité de me tourner quelques instants vers Dieu en moi ou vers le Christ et de dire « Là, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il ?» Je pense que vous avez peut-être aussi fait l'expérience que souvent, la réponse, la solution, vient très vite, presque sur le champ. D'autres fois, elle ne vient que plus tard, par exemple le soir, lorsqu'on prend le temps de réfléchir calmement à ce qui s'est passé. Je crois que celui qui a ressenti une fois profondément dans son cœur la présence de Dieu et du Christ ressent automatiquement le besoin d'intensifier toujours plus cette relation. Le matin, j'ai envie de commencer la journée en me tournant vers lui et en lui demandant de me guider dans les différentes situations que je rencontrerai. Et le soir, je ne veux pas simplement tomber dans mon lit, comme on dit, mais prendre quelques instants pour remercier pour la journée et pour faire un petit bilan en me disant « Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Qu'est-ce que je peux faire mieux demain ?» En fait, mon souhait serait que beaucoup de personnes, et surtout les jeunes, arrivent à « jeter par la fenêtre » entre guillemets les vieilles conceptions de Dieu et de Jésus qui nous ont été transmises pour trouver dans leur cœur l'esprit libre qui est en chacun de nous. Se sentir proche de Dieu dans son cœur, Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas cool. Je ne sais pas exactement comment le dire, mais je crois qu'il faut en faire une fois l'expérience et que, justement, les jeunes peuvent avoir une relation beaucoup plus simple, plus naturelle à Dieu. Souvent, ils ressentent sa présence lorsqu'ils sont avec les animaux ou dans la nature. J'en connais beaucoup qui disent « Moi, Dieu, ça ne me branche pas du tout, mais j'aime beaucoup aller dans la nature. » Et pourquoi ? Parce que dans la nature, lorsqu'il n'y a pas de bruit, rien qui détourne ton attention, alors tu ressens peut-être qu'il y a quelque chose, une présence. Qui fait pousser ces arbres ? Et qui a créé ces montagnes ? Prendre conscience de cela peut permettre à beaucoup de se défaire d'une image poussiéreuse de Dieu. On doit aller au catéchisme, à l'église le dimanche, etc., etc.
Tu veux dire chercher le calme parce qu'on ne peut pas trouver Dieu dans l'agitation, n'est-ce pas ?
Oui, pour moi c'est important, mais ça ne veut pas dire que je médite pendant 1h30 chaque matin et 3h le soir et encore au milieu. Il faut bien que je fasse mon travail.
Donc ne pas être fanatique, mais...
Oui, exactement, ça serait complètement contre nature. Jésus était charpentier, n'est-ce pas ? Lorsqu'il travaillait sur une toiture, il n'a certainement pas dit « Hé, attendez un peu, il faut que je prie un petit moment. » Une prière est quelque chose de tout à fait naturel, de concret. Parfois, il ne s'agit que de quelques instants où on s'intériorise. Avant de commencer le travail, avant de parler avec quelqu'un ou encore avant un examen important. Je crois que vous connaissez aussi ces situations. L'essentiel, c'est de construire cette relation profonde et intensive avec Dieu et cela grandit peu à peu.
Je fais aussi l'expérience que d'avoir conscience que Dieu est en nous me donne du courage et aussi une certaine assurance au quotidien dans les situations difficiles. Je remarque que ça m'aide dans mes relations avec mes prochains parce que je sais que Dieu est aussi en eux. Pour donner un exemple concret, il m'est plus facile d'écouter mon prochain sans avoir toutes sortes de jugements de valeur envers lui, surtout en pensée.
En gagnant respect envers l'autre.
Exactement. Je vois aussi que ça me relie à mon prochain. Au travail, par exemple, ça crée un bon esprit d'équipe et on fait alors du bon travail parce qu'on est bien soudés et on trouve les bonnes solutions. C'est mon expérience. Oui, on travaille vraiment ensemble.
Je peux confirmer que pour moi aussi, c'est quelque chose de très concret. Le seul fait de savoir que cette force, que Dieu est auprès de moi à chaque instant, de pouvoir ressentir son amour et me sentir protégée dans mon cœur, de savoir qu'il est toujours là parce qu'il habite en moi, c'est déjà une aide pour moi. Ça veut dire qu'à chaque instant, je peux me tourner vers lui. Il m'aide à ne pas me perdre dans les choses sans importance, à ne pas trop tourner autour de mes petits problèmes personnels, mais au contraire, à tourner mon regard vers le haut, à avoir des images et des buts plus élevés, à me relever en cherchant en moi la force de le faire, à trouver avec lui, avec Dieu, les solutions, et vraiment à garder toujours en moi cette vision pour le grand tout.
Ok,
c'est-à-dire avoir une vision plus large des choses, ne pas se perdre dans son petit moi humain et avoir une vision plus élevée, c'est ça ?
Oui, c'est important.
Estefania vient de dire que Dieu est amour et c'est en fait ce qui nous unit tous. C'est aussi valable dans le monde du travail. C'est ce qui relie les employés d'une même entreprise. Mais si on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit bien que ce qui manque à tous les niveaux, c'est exactement ce sentiment d'unité. Développer l'unité, c'est justement un pas que chacun peut faire vers Dieu.
Et puis c'est contagieux. Quand on commence soi-même, on remarque que les autres suivent. Il se passe quelque chose. Il y a une communication positive entre nous. Et c'est agréable pour chacun. Pour nous aussi bien que pour ceux qui sont autour de nous.
Oui, parce que je crois que l'important, c'est de commencer soi-même et de ne pas attendre que le monde change. Tu dois commencer par toi-même, aller vers les autres.
C'est justement ça la foi active, n'est-ce pas ? Ne pas dire simplement « je crois en Dieu et tout va bien se passer », mais faire soi-même quelque chose, en commençant par changer soi-même pour être un peu plus supportable pour les autres, n'est-ce pas ?
Quand on pense qu'une grande partie de l'humanité se dit chrétienne et connaît cette citation de la Bible, Dieu est en vous, et qu'en même temps on voit l'état du monde et toutes les horreurs qui ont été faites au nom du Christ, vous dites, de façon indirecte, que cela montre que l'humanité doit encore apprendre à comprendre le sens de l'enseignement de Jésus de Nazareth et découvrir le trésor qu'il recèle. C'est très impressionnant pour moi. Une dernière question pour conclure. Comment priez-vous Dieu? Vous pouvez nous expliquer encore un peu cela? Je crois que ça pourrait aider beaucoup de gens.
Eh bien, le plus important, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, pour moi, c'est cette relation intérieure. C'est ce que l'on ressent dans son cœur. C'est de savoir qu'on peut se tourner en soi vers Dieu, vers le Christ. Et l'autre aspect important, comme disait Estefania, c'est de ne pas rester accroché à nos problèmes personnels, mais de nous ouvrir à notre prochain et aussi aux animaux. Gabriel a écrit de nombreux livres et brochures. Estefania nous a lu tout à l'heure un passage de l'un d'entre eux. Je me suis aussi noté un passage de ce livre qui, je trouve, répond bien à ta question. Et j'aimerais bien le citer. Tout à l'heure, nous avons entendu ce que Jésus de Nazareth a dit à propos de la manière dont nous pouvons prier en nous retirant dans notre petite pièce silencieuse, donc en nous. Gabriel ajoute à ce sujet, je cite, « Il est conseillé de rechercher un endroit calme. Aujourd'hui, on dirait s'installer une petite niche au calme dans une pièce où nous pourrons marquer une pause, nous recentrer, et toujours mieux ordonner nos pensées pour ainsi trouver le calme. Même si ce n'est que pour quelques instants, progressivement nos pensées deviendront toujours plus profondes et tout à coup, nous ressentirons que quelque chose veut être accompli en nous. Quoi ? C'est cela la prière. Avec le temps, vous verrez que dans ces quelques minutes, vous pouvez pénétrer dans votre propre monde intérieur et découvrir un nouvel aspect de vous-même. Ainsi, vous apprenez à vous connaître et vous ressentirez rapidement que vous n'êtes pas seul, qu'un esprit puissant, la puissance de l'infini, habite en vous. Il vous aide et vous donne la force non seulement de prier, mais également d'accomplir les tâches du quotidien dans son esprit.
Ce qui est très important pour moi dans la prière, c'est d'amener le calme dans mes pensées et mes sensations pour que je puisse entrer profondément en moi et ouvrir mon cœur pour le laisser parler et aussi laisser s'exprimer mon âme plutôt que ma tête. C'est dans ce calme profond que je peux commencer à parler avec Dieu. Dieu est mon Père et je peux parler tout à fait normalement avec lui. Je me rappelle toujours ce que Gabrielle a souvent répété. Elle dit « La prière est un dialogue avec Dieu. Je trouve que c'est une belle image. Ce n'est pas compliqué. Peu importe où l'on se trouve, lorsqu'on en ressent le besoin au cours de la journée, on peut se tourner vers lui. Il est toujours là. Il suffit de rechercher ce calme, le silence pour s'adresser à lui. Mais cela, chacun doit en faire lui-même l'expérience.
Merci, et je crois que ce sera notre mot de la fin, car notre émission se termine. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci d'avoir partagé avec nous vos expériences et pour les passages aussi des textes de Gabriel que vous avez lus. Il serait, je crois, intéressant d'approfondir beaucoup plus encore ce sujet et je me réjouirais de vous retrouver pour une autre émission, peut-être sur le thème de la foi active cette fois. Chers téléspectateurs, chers amis, merci de l'intérêt que vous avez, vous aussi, porté à cette émission. Nous prenons maintenant congé de vous pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.